Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. En pleine pandémie de Covid-19, le gouvernement italien se retrouve en sursis. Matteo Renzi, de centre-gauche, a décidé de retirer son parti de la coalition au pouvoir. Elle est du coup privée de majorité au Parlement. Nous irons à Rome dans un instant où la gestion solitaire de la crise sanitaire est remise en cause. Les mots ensuite de Donald Trump. Le président critique les violences de la semaine dernière au Capitole à Washington, à quelques jours d'un procès pour destitution. Hier, la Chambre des représentants a donné son accord contre Donald Trump, donc. Un couvre-feu avancé pour de nombreux départements français, mais pas d'écoles fermées dans le pays. Le Premier ministre donnera les détails des nouvelles mesures ce soir. Nous nous interrogerons sur les enfants comme vecteurs ou non du Covid-19. Précision donnée ensuite sur un rapport parlementaire. Il veut supprimer les nitrites dans la charcuterie et il sera suivi d'une proposition de loi. Et puis la mort de Marielle de Sarnez, annoncée hier soir par François Bayrou. Le président du Modem était très proche de la députée centriste. Quand l'Italie renoue avec ses démons, hier soir, Matteo Renzi a retiré ses ministres du gouvernement Conte. Le président du Conseil italien n'a donc plus de majorité au Parlement. L'Italie entre-t-elle dans une crise politique? Comment s'en sortir? Explication ce matin depuis Rome de Bruce de Galzin.
C'est un duel d'hommes qui se transforme en crise pour tout un pays. Matteo Renzi ne supportait plus la manière de gouverner de Giuseppe Conte, qu'il accuse de concentrer les pouvoirs et de ne pas avancer sur le plan de relance européen.
Penser résoudre les problèmes avec un tweet, un post, une histoire sur Instagram, c'est du populisme. La politique exige le respect des règles, des instances démocratiques, des liturgies de la démocratie. Vous voulez résoudre cette crise ? Donnez plus d'argent à la santé, faites un projet sérieux pour reconstruire ce pays, donnez de l'espoir aux jeunes.
Et l'Italie doit en effet enclencher la vitesse supérieure pour adopter son plan de relance et prouver qu'elle est capable de bien dépenser les fonds européens. Mais désormais, qui sera à la manœuvre? La droite et l'extrême droite réclament des élections qu'elle remporterait selon les sondages. Mais en pleine pandémie, ce n'est pas le chemin que devrait prendre l'Italie. Giuseppe Conte pourrait reformer un gouvernement avec une nouvelle majorité, ou bien le président de la République pourrait nommer un nouveau président du Conseil.
C'était Bruce de Galzin en Italie. Crise politique aussi aux États-Unis en pleine pandémie de Covid-19. Le président Donald Trump est désormais le premier de l'histoire des États-Unis à avoir été mis deux fois en accusation. Hier soir, la Chambre des représentants a en effet voté en faveur de l'impeachment, de la destitution donc du président, à cause des violences du Capitole de la semaine dernière. 10 élus républicains ont rejoint les démocrates et approuvé cette mise en accusation. Reste maintenant le vote du Sénat qui devrait avoir lieu après le mandat de Donald Trump. Ce dernier n'a pas réagi directement hier, mais il a tout de même publié une vidéo sur le compte de la Maison Blanche, jouant la carte de l'apaisement. Écoutez.
Je condamne sans équivoque les violences que l'on a vues la semaine dernière. La violence et le vandalisme n'ont absolument pas leur place dans notre pays et pas de place dans notre mouvement. Aucun de mes véritables partisans ne pourrait être favorable à la violence politique. Aucun de mes véritables partisans ne pourrait manquer de respect aux forces de l'ordre et à notre formidable drapeau américain. Aucun de mes véritables partisans ne pourrait menacer leurs concitoyens. Si vous faites une seule de ces choses, vous ne soutenez pas notre mouvement. Vous l'attaquez et vous attaquez notre pays. Nous ne pouvons pas tolérer cela.
Donald Trump traduit grâce à notre envoyé spécial Franck Madvon à Washington. Y aura-t-il bientôt un couvre-feu à 18h partout en France? C'est une des pistes privilégiées par le gouvernement. En tout cas, on en saura plus ce soir. Le Premier ministre doit donner une conférence de presse à 18h. A priori, pas de reconfinement total, pas de fermeture des écoles non plus. Le Conseil scientifique n'y est pas favorable. Le ministre de l'Éducation nationale n'y est pas favorable aussi. Cela tranche avec nos voisins Allemagne, Autriche, Pays-Bas ou Royaume-Uni, mais c'est un bon choix pour le docteur Véronique Edgegen. Elle est pédiatre infectiologue au centre hospitalier de Versailles dans les Yvelines. Les enfants, dit-elle, ne doivent pas être tenus comme responsables des contaminations.
Quelque chose qui me frappe là ces derniers temps, c'est vraiment que tout se cristallise autour de l'enfant, comme si c'était l'enfant qui était responsable de la pandémie que nous sommes en train de vivre. Or, on a démontré depuis le début de l'épidémie que certes l'enfant peut être contagieux, mais que lorsqu'il est infecté, sa source principale d'infection, c'est les adultes qui l'entourent. On n'a pas de forme grave de l'enfant à l'hôpital. Depuis le début, on n'en a pas eu, on n'en a toujours pas. Ou lorsqu'on en a, elles sont vraiment exceptionnelles. Donc l'enfant est peu concerné par la maladie. Donc clairement, lorsque l'épidémie est hors de contrôle, oui, les enfants vont aussi avoir des restrictions, mais ça doit être les derniers à avoir des restrictions. Ça ne doit pas être une variable d'ajustement avant qu'on arrive à la restriction globale pour toute la société. Parce que les restrictions chez eux ont des conséquences majeures, et ça, nous on voit une nette augmentation des troubles psychiatriques, des tentatives de suicide, des troubles anxieux, des phobies scolaires, de la maltraitance, sans parler même du décrochage scolaire. Donc c'est vraiment l'avenir des enfants qui se joue là.
Des propos recueillis par Bénédicte Robin pour France Culture. Peut-être un pas de plus vers la fin des nitrites dans les charcuteries. Un rapport parlementaire LREM Modem UDI a été présenté hier. Il préconise l'interdiction progressive de ces additifs alimentaires, ceux qui donnent leur couleur appétissante à certains produits, la charcuterie notamment, ceux qui allongent la durée de conservation, mais dont il est également prouvé le caractère cancérogène. Interdiction donc d'ici 2023 pour les salaisons comme le jambon cru, d'ici 2025 pour les charcuteries cuites. Adrien Toffolet.
Les rapporteurs du texte ont pris soin de ménager les industriels. Richard Ramos, le député Modem du Loiret et rapporteur du texte, privilégie cette fois la méthode douce.
On leur a donné 5 ans pour le jambon blanc et tout ce qui est étuvé, et 3 ans pour la charcuterie sèche. Et on a accompagné ça dans une demande de fonds qui permettra à certains qui auraient besoin de faire des petits investissements de pouvoir se servir de ce fonds-là.
Le temps n'est plus à devoir prouver la dangerosité du cocktail additif plus charcuterie. Il est responsable de 5000 cas de cancer par an en France, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour le président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, c'est donc dans l'intérêt de toute l'industrie de changer.
Pour les charcutiers, l'avenir, ce serait que leurs produits fétiches ne soient plus classés cancérigènes de classe 1 par l'Organisation mondiale de la santé. Et cela passe par l'abandon des nitrates et des nitrites.
Les grands groupes comme Herta et Fleury Michon proposent déjà une gamme de produits sans nitrites, plus chers. De quoi motiver d'ailleurs, selon Richard Ramos, leur opposition farouche à toute interdiction. Le soutien concernera donc les plus petits, surtout le président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs artisans, qui a tout de même quelques réserves.
Si vous me dites que le zéro nitrite, vous me garantissez la sécurité sanitaire, alimentaire, moi je signe. Mais après, psychologiquement, il va falloir quand même dire et faire comprendre aux consommateurs que de manger un jambon gris, il n'a pas de conservateur, il n'a pas de polyphosphate, il n'a pas d'exhausteur de goût. Donc voilà, c'est un jambon naturel.
Quant au ministère de l'Agriculture, il attend le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur les nitrites dans la charcuterie qui doit être rendu au mois d'avril, avant de se prononcer en faveur ou non de la proposition de loi qui sera examinée plus tard dans l'année.
L'affaire du siècle arrive devant la justice aujourd'hui, jeudi, fort du soutien de plus de 2 millions de citoyens via une pétition. 4 ONG requérantes espèrent la reconnaissance d'une défaillance de l'État dans la lutte contre le réchauffement climatique. Elles ont donc recueilli 2 millions de signatures il y a quelques mois. La décision du tribunal administratif sera rendue à la fin du mois de janvier. La maison centriste perd l'un de ses piliers. La députée de Paris, Marielle de Sarnez, est décédée hier d'une leucémie foudroyante à l'âge de 69 ans. Emmanuel Macron voit en elle une combattante passionnée de l'Europe. Il a perdu, dit-il, une amie. Amie aussi et surtout de François Bayrou, dont Marielle de Sarnez a toujours suivi le sillage. Présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, elle était vice-présidente du Modem. Dans l'ombre donc toujours de François Bayrou, Maxence Lambrec.
Elle, c'est moi, moi, c'est elle. Cette confidence de François Bayrou en dit long sur ce couple politique singulier. Plus de 30 ans de compagnonnage des jeunes giscardiens à l'UDF, du Modem, à l'élection d'Emmanuel Macron. Ce devait être l'apogée de sa carrière. L'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen rend son passage au gouvernement bien éphémère. François Bayrou et Marielle de Sarnez avaient le même âge, la même passion européenne. Elle siégea 18 ans à Strasbourg, le même idéal centriste au-delà du clivage gauche-droite. Cette grande blonde, élancée, énergique, au regard bleu intense et à la veste noire, fut de toutes les décisions, de toutes les réunions avec François Bayrou, sa directrice de cabinet au ministère de l'Éducation, alors qu'elle n'était pas énarque, c'était une première, la patronne de ses campagnes présidentielles en 2002-2007. Ces dernières semaines, le maire de Pau était très affecté par l'état de santé de sa complice. Fidèle, courageuse, exigeante, toute la classe politique de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen salue une femme de confiance. conviction. Emmanuel Macron regrette une amie, artisane inlassable du centre.
Le temps de ce jeudi qui débute, un épisode neigeux est attendu sur le nord-est. Ailleurs, c'est la pluie qui va tomber. Ce matin, il fait 2 degrés à Lille, 5 à Clermont-Ferrand, 9 degrés à Paris et 11 à Cherbourg.